Bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas encore vues ce matin. Alors, c'est extraordinaire parce que l'introduction qu'ont présenté le pasteur Marc et le pasteur Elisabeth va dans le sens de mon message. Vous savez, ces derniers temps, le Seigneur a mis l'accent sur un point qui se passe dans la vie de tous les chrétiens. Et quand je dis tous, c'est tous sans exception. Quand Marc, tout à l'heure, je crois que c'est le pasteur Marc, qui a parlé de Pierre, qui a parlé de Paul, qui ont conquis des territoires, qui ont conquis des gens, qui ont mené des personnes au Seigneur, qui ont fait des miracles. Quand on parle, tout à l'heure, on a parlé d'Éric Astaud, vous verrez, il va venir sous peu. Il se promène dans les rues avec une croix. Vous savez, quand on a été dernièrement, on a eu la conférence de prière et on a eu une journée d'évangélisation. Et il y avait, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là, il y avait Mélanie Swingle, je crois que j'espère que je n'estropie pas trop son prénom, Mélissa, pardon, Swingle. Et je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous ? Rien ! Ils n'ont rien de plus que nous. Sinon une hardiesse sûrement, mais ils n'ont rien de plus que nous. Je voyais Mélissa qui marchait dans la rue et qui parlait aux gens, d'après un petit traité, bon, on verra ça dans l'évangélisation dans quelques temps. Je veux dire, et elle parlait aux gens, et les gens, pif, paf, pouf, en 3 secondes, ils acceptent le Seigneur. Nous, quand on y va, c'est comme si on était déjà parti vaincu. On part déjà avec l'idée de, on est en France, ils ne veulent pas entendre l'évangile. Ici, il n'y a que le catholicisme qui compte. Et on part déjà vaincu avec 1000 excuses. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont de plus ? La réponse est rien. La seule chose qu'ils font, ils ne limitent pas Dieu. Ils ne limitent pas Dieu dans leur vie. Et je me suis rendu compte combien les chrétiens, aujourd'hui, malgré la richesse qu'il y a à l'intérieur de eux, empêchent le Saint-Esprit d'agir, empêche Dieu d'agir. Alors, vous savez, Dieu, j'ai parlé la dernière fois que Dieu avait des plans. Il a beaucoup de plans. Il a mis des richesses dans chacun d'entre nous. Il a mis des choses que nous ne soupçonnons pas. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a des talents qui ne sont pas encore sortis. Il y a des dons. Je ne sais pas, si vous, des fois quand on vous voit les uns et les autres, c'est frappant. Les dons qu'on peut voir dans les autres que la personne ne voit pas encore. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a limité Dieu. Parce que si on laisse libre cours à Dieu, je vous garantis que les talents que vous avez, les dons que vous avez, il va vous les montrer. Et il y a des dons, des richesses, je le dis, je le maintiens, dans chacun. Vous êtes une mine d'or pour le Seigneur. Mais vous savez quoi ? La mine d'or, elle a besoin d'être exploitée. À un moment donné, on ne va pas être comme un poisson. Vous savez, un poisson, on le met dans un bocal et il tourne en rond. Et les chrétiens, c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont dans un bocal et ils tournent. Ils sont contents. Le poisson, il est dans son bocal, son espace est limité. Il a à manger, il a ce dont il a besoin pour vivre et ça s'arrête là. Mais le poisson a vraiment besoin de sortir de son bocal. Alors soyons comme des poissons et sortons de notre bocal. Vous savez, Dieu ne fait exception de personne. Acte 10, 34 nous dit tout simplement et bêtement que Dieu ne fait exception de personne. Ça veut dire quoi ? Bon, non seulement pour le salut, il veut amener toutes les âmes au salut, ça c'est certain, mais il fait des choses merveilleuses dans la vie de chacun. Il n'a jamais fait une personne inférieure à l'autre et nous avons tous dans notre vie quelque chose que veut Dieu accomplir en nous. Maintenant, il a mis des talents différents, il a mis des choses différentes de l'un à l'autre, mais il n'y a pas une seule personne dans cette pièce ou un seul enfant de Dieu qui soit inférieur à un autre. Alors, la première des choses, je veux dire, qu'il faut arrêter de faire, c'est de se comparer aux autres. Parce que quand on commence à se comparer aux autres, inévitablement, on va se voir louper quelque part. Ou au-dessus, pour certains. Donc, arrêtons de nous comparer. Jérémie 29, 11 nous dit, c'est pas la peine de le chercher, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Psaume 139, 14 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui as tissé dans le sein de ma mère, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. Vous savez que vous êtes une de ces œuvres ? Vous savez que vous êtes des personnes qui pouvaient aller bien au-delà de ce que vous pouvez penser. Vous savez que vous pouvez sortir du bocal et aller dans un autre endroit. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Il connaissait parfaitement tous les plans qu'il avait pour nous. Il passait parfaitement, toutes les traces de notre vie étaient écrites. Peut-être y a-t-il des lignes d'écriture qu'on a sautées, mais Dieu nous ramène toujours à l'endroit où il veut nous ramener. Peu importe, mais c'est pas là. Là n'est pas le principal de message. Pourtant, nous sommes tous comme un poisson dans ce bocal. On reprend notre petit poisson dans le bocal. Donc, le petit poisson a besoin de sortir pour voir d'autres choses dans son bocal. Nous ne pouvons découvrir de nouveaux océans à moins de perdre de vue le rivage. Je répète, si on veut sortir de nos limites, il va falloir quitter le rivage. Si on veut qu'un voilier navigue, voile déployée, il va falloir qu'il quitte le port. Et si nous, on veut rentrer dans les choses que Dieu a pour nous, il va falloir sortir du bocal. On ne s'appelle pas Nemo. Donc, ce que Dieu vous donnait, ce n'est pas un rivage, ce n'est pas le port. Il veut vous faire prendre le large, il veut vous faire quitter ces lieux pour que vous découvriez les talents, les capacités et tout le potentiel que Dieu a mis en vous. Il y a la vie que nous vivons, la vie que nous avons aujourd'hui, et il y a la vie que veut Dieu que nous ayons. Et je vous garantis que si chacun quitte l'endroit d'où il est, Dieu va nous amener dans des autres lieux. Dieu veut nous amener à la vie que lui veut, pas celle que nous voulons, celle où nous allons être exploités par lui à 100%. Il existe d'autres choses. Pourquoi sommes-nous prisonniers ? Alors, c'est vrai que quand on est comme ça, c'est parce que quelque part on est prisonnier. On est prisonnier pour plusieurs raisons. La première raison, c'est parce que nous limitons Dieu. J'irai plus loin. On lui donne des excuses. Souvent, c'est « je suis trop vieux, je suis trop jeune, ma situation de famille ne me permet pas. Oui, mais mon mari n'est pas d'accord. Oui, mais ma femme n'est pas d'accord. Oui, mais mon travail me prend trop de temps. Oui, mais les gens de cette église, je ne les aime pas. Oui, mais le pasteur, il y a quelque chose, il me met mal à l'aise, je ne comprends pas. » On peut avoir, vous savez quoi ? 1 million d'excuses. On peut avoir été offensé. On peut avoir tout simplement de l'incrédulité, le manque de foi, le manque de confiance en soi. Tout ça sont des excuses pour nous empêcher à sortir de la tente, du bocal. Oui, quand même fait solennel. Ok ? On n'est pas des poissons, on n'est pas des Nemo. Et Dieu veut agir au travers de nous. Éphésiens 3:20, c'est tous des versets de base que je vous rappelle, mais il est bon de les réentendre. Je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent. Or, à celui qui peut faire infiniment en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou ce que nous pensons. Vous savez, j'ai souvent prié ce verset, mais quelque part, il est vrai, mais il est faux. Il est vrai parce que Dieu peut agir en nous infiniment au-delà de ce que nous lui demandons. Mais Dieu peut agir en nous que si nous mettons notre foi en action et nous lui demandons de bien vouloir nous sortir de l'endroit où nous sommes. Dieu ne peut rien faire sans notre volonté. Dieu ne peut rien faire sans notre foi si nous sommes incrédules. Il ne pourra pas agir. Vous savez, la puissance de Dieu agit en nous. La puissance de Jésus, celle qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, elle est en nous. Et Dieu peut la activer 1000 fois. Il y avait un livre qui disait « Un miracle tranche la question » de Mike Franzen à l'époque. Et ce livre, je l'ai lu au début, d'ailleurs je l'ai prêté à quelqu'un et je ne le trouve plus, et je ne le trouve plus dans le commerce non plus. « Un miracle tranche la question ». Quand il allait évangéliser, il disait, il allait dans des pays, et aussi, comment il s'appelle, T.L. Osborne, qui est un très grand évangélisateur, ils allaient dans des pays, ils allaient devant les gens, ils amenaient toute une doctrine, il parlait de doctrine, enfin doctrine, il parlait de Jésus, et fatalement, inévitablement, les autres religions, rejetaient à la tête des points de leur religion. Et un jour, il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et il lui a dit, un miracle tranche la question. Tout simplement, ils ont commencé à faire des croisades, ils ont commencé à aller voir les gens, à leur parler, à prier pour eux et à voir des miracles. Et là, les gens ont conquis. Pourquoi ces personnes ont osé sortir de leur entendement? Elles ont osé sortir d'une façon de penser, elles ont osé sortir d'un lieu où il faut que j'annonce. Oui, il faut qu'on annonce l'évangile, oui, il faut qu'on parle des versets, parce que c'est la parole qui porte du fruit, ok? Et c'est pas des témoignages uniquement. Et moi, quand je dis aux personnes avec qui j'évangélise, je dis, c'est pas le fait de donner des témoignages qui va faire qu'on amène les gens au Seigneur, c'est le fait de donner la parole, parce que la parole ne retourne pas à lui sans avoir porté des faits. Mais ce qui amène aussi les gens au Seigneur, c'est que les gens puissent voir. Les gens puissent voir des personnes qui prient. Et je crois que cette église est une église qui va évangéliser. Et là, ce matin, je parle pour le secteur d'évangélisme. Je crois que cette église va avoir la hardiesse de sortir des limites et de pouvoir aller voir les gens dans la rue, de proposer la prière, d'imposer les mains et de ne pas avoir peur de se prendre une, comme on dit dans le sud, une beigne. Ok ? Mais le seul problème, c'est que si nous n'avons pas la foi, donc nous n'avons pas la puissance. Même si la puissance, elle est en nous, la puissance ne sera pas activée. Venez le dimanche, le pasteur Marie-Hélène est en train de prêcher une excellente série sur la foi. Nous limitons vraiment Dieu et nous pouvons même stopper la puissance de Dieu. Quand nous disons que Dieu est souverain et qu'il fait toutes choses, ça voudrait dire, de la façon quand on dit ça, Dieu est souverain et il fait toutes choses, quelque part, c'est comme si nous disions, Dieu est en train de nous mettre de côté. Alors pourquoi il a besoin de nous? S'il est souverain et s'il fait toutes choses, pourquoi a-t-il besoin de nous? Il a besoin de nous pour pouvoir montrer sa puissance à condition que nous sortions de l'endroit où nous sommes. Donc, que faut-il faire pour sortir de ce bocal et pour quitter le port et pour aller vers de nouveaux... pour quitter, comment dire, le rivage? Proverbe 29, 18. Si vous voulez le prendre. Proverbe 29, 18 nous dit « Quand personne ne prévoit l'avenir... le peuple vit dans le désordre. Tout commence par une vision. » C'est le roi Salomon qui parle. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. On ne peut pas aller plus loin si on n'a pas une vision dans notre cœur. On ne peut pas... Le bateau veut naviguer, mais s'il n'a pas une destination... il ne va pas aller bien loin, ou il va se perdre. Le petit poisson dans le bocal, il risque de se perdre aussi, s'il n'a pas un endroit si on le sort du bocal. Et on est exactement pareil. Quand personne ne prévoit l'avenir, le peuple vit dans le désordre. Vous savez, souvent, on est dans une église et on est dans une excellente église. Ah, quand même. On a des pasteurs... qui ont une vision. On a des pasteurs qui nous montrent leur vision. On a des pasteurs qui investissent dans nos vies et qui amènent cette église à une certaine vision. Mais vous savez, l'église ne peut aller à l'endroit où elle doit aller que si ceux qui en font partie ont aussi leur vision. Parce que la vision que Dieu va mettre dans notre cœur correspond parfaitement avec celle de l'Église pour nous permettre de faire ce qu'il y a à faire dans l'Église. Et on a besoin de demander nos directives. Vraiment, Dieu a des instructions à nous donner. Dieu a des projets. Et on a vraiment besoin de se mettre devant le Seigneur et de savoir où sont ces projets. Peut-être êtes-vous insatisfait de l'endroit où vous êtes et rien ne va, rien ne vous comble. Et il manque toujours quelque chose. Pourquoi ? Parce que quelque part, il y a une vision qu'on n'a pas. C'est comme si on était dans un carcan. C'est comme si on était à l'étroit. On voit, on sent qu'il y a quelque chose de plus grand, mais on n'arrive pas à sortir de ce lieu. On sent que Dieu a mis d'autres choses en nous, mais on n'arrive pas à sortir de cet endroit. Et pourtant, Dieu a bien mis des choses dans chacun, de grandes choses, des grandes œuvres. Dieu a bien placé des talents et des désirs. Mais si on est dans un carcan, on n'arrivera jamais à les sortir. Si tu souhaites, tu as peut-être des problèmes, tu as peut-être des choses dans ta vie. Vous savez, quand on est dans un bocal, quand on voit un poisson dans un bocal, quand il tourne, si un chat... arrive devant le bocal et fait que le regarder, le bocal démultiplie la taille de la tête du chat qui est à côté. Et vous savez quoi ? Quand on est dans notre bocal et qu'on est dans les limites, qu'on est dans des limites, on ne fait que voir notre problème amplifié. Nos problèmes amplifiés et on ne voit pas les solutions que Dieu a. Dieu a des solutions, mais ne soyons pas derrière la vitre du bocal à les espérer, à les attendre, mais on va aller les chercher. Quand Salomon a parlé de révélation, il s'agit du mot chazon en hébreu, chazon. Chazon en hébreu veut dire vision, songe, révélation, dans le sens de Dieu. Ça parle uniquement dans le sens envers Dieu. Ça parle de quoi ? De communication divine. Notre responsabilité est d'aller devant Dieu et de recevoir notre propre révélation. La révélation n'est jamais horizontale, mais elle est toujours verticale. Vous n'aurez jamais la solution au travers des gens de l'Église en parlant avec Pierre, Paul, Jacques. La seule chose qu'ils vont faire, c'est prier pour que vous voyez. Mais la solution, elle doit venir uniquement d'en haut. La révélation ne peut venir que d'en haut. Elle ne peut pas venir de quelqu'un d'autre de l'Église. Si vous voulez sortir de vos limites, il va falloir aller chercher la révélation, il va falloir aller chercher le chazon, il va falloir aller chercher la solution en haut et pas dans les frères et sœurs. Ils ne pourront jamais rien faire. Ils pourront prier pour vous, ils pourront vous conseiller, mais ils ne pourront jamais faire ce que Dieu va faire. Et si vous, vous n'avez pas la révélation, vous ne pourrez pas agir comme quelqu'un qui l'a. Vous ferez une espèce de copier-coller qui risque de foirer, d'accord ? Mais vous n'arriverez jamais, vous n'irez jamais dans le sens, vous ne sortirez jamais du bocal dans lequel vous êtes, dans lequel, duquel Dieu veut vous faire sortir avec sa révélation à lui. Comment trouver ces instructions ? Prenez Matthieu 7:7. Vous savez, ce matin, c'est tout simple ce que j'apporte. C'est tout simple, mais on a tendance, ne me dites pas que ce n'est pas vrai, on est tous quelque part dans notre vie coincés, dans un endroit où on ne va pas, et on n'est pas au niveau où Dieu voudrait nous avoir. Matthieu 7:7 nous dit, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ce n'est pas le pasteur qui a écrit ça pour vous. Hein. Ce n'est pas les gens de l'Église qui ont écrit ça pour vous. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, frappez et je vous ouvrirai. Venez auprès de moi. Venez au pied de mon trône. Venez à ma rencontre. Venez chercher ce que j'ai à vous. Venez. Venez m'écouter, prenez du temps avec moi, mettez-vous à l'écart. Il n'y a que moi qui ai les solutions pour vous. Tous ceux qui cherchent, trouvent. D'ailleurs, on le dit dans le monde, qui cherche, trouve. Pas toi qui cherche, trouve. Ceux qui sont d'ici, ils savent ce que ça veut dire. Ok ? Alors, qui cherche, trouve. Mais besoin de chercher de tout son cœur. Je reviens sur Jérémie 29, 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Point barre. Tout le monde cite ce verset, il est magnifique, Dieu a des projets magnifiques, des talents merveilleux pour nous. Oui, mais sauf qu'il y a quand même une suite. Il y a quand même une suite pour voir ces projets arriver. Le verset 12 nous dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu sais, si tu veux quitter l'endroit où tu es, il va falloir que tu cherches. Dieu lui-même a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Pourquoi ? Parce qu'il veut nous emmener dans les lieux qu'il a prévus pour nous. Parce qu'il veut faire comme les Hébreux. Il veut nous emmener dans notre terre promise. Il ne veut pas que nous restions au milieu tournés comme les Hébreux pendant 40 ans dans le désert. Les Hébreux, si on lit le passage de Psaume 78, parle comment Dieu a sorti des Hébreux. On voit qu'il a fait des miracles, on voit qu'il a ouvert la mer Rouge, on voit qu'il a envoyé les fléaux sur les Égyptiens. Il a tout fait, il les a sortis, il les a amenés dans le désert. Il leur a donné de l'eau quand il y avait besoin, il leur a donné la manne, il leur a donné la pluie, il leur a donné tout ce dont ils pouvaient avoir besoin dans la chair, il leur a donné. Tout. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'est marcher par la foi et sortir du désert. Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux ? Ils ont tourné pendant 40 ans. Cherchez et vous trouverez. Moi, vous savez, je suis restée longtemps dans des problèmes. Et je me demandais presque limite de la rébellion. Limite dans la rébellion parce qu'on commence à se poser des questions et à se dire qu'est-ce qu'il fait le Seigneur ? Il est en vacances ? Pourquoi il ne m'écoute pas ? Pourquoi il ne m'entend pas ? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Cherchez et vous trouverez. Des fois, il suffit simplement d'aller à la source. Quand les Hébreux, quand ils sont sortis, qu'ils sont sortis de la terre promise, qu'il y a des espions qui sont sortis pour aller dans la terre promise, lorsqu'ils sont revenus de leur petite excursion pendant quelques jours, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Des géants. Des géants. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au lieu de dire « avec Dieu, nous ferons des exploits », au lieu de limiter encore une fois Dieu, la Bible nous le dit au verset 78-41, je crois, dans la King James version, il est écrit « ils limitèrent Dieu ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé aux impossibilités, ils ont regardé aux incapacités, ils ont regardé à tout ce qui n'était pas faisable, au lieu de regarder à ce que Dieu avait pour eux. Et ce matin, ce que je veux vraiment, c'est qu'on regarde ce que Dieu a pour nous. Nous sommes dans un endroit où Dieu veut nous amener plus loin. Et il faut vraiment sortir du désert. On a besoin de sortir du désert pour rentrer dans la terre promise, pour pouvoir rentrer dans exactement tout ce qu'il a. Il y a un moyen aussi aujourd'hui qui nous empêche de rentrer dans tout ce que Dieu a, qui limite Dieu, qui nous empêche de sortir du bocal. Prenez Marc 4, 19. Et là, on voit, c'est la parabole du semeur, et on voit plusieurs formes de terre dans lesquelles la semence est tombée. Marc 4, 19, donc on va parler juste d'une forme de terre. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous savez, on est dans le sud, ok ? Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas originaires du Sud ou qui sont peut-être en vacances. Okay. Et on connaît tous ici le dolce far niente. En gros, c'est bon de se la couler douce, pour résumer la situation. Et c'est exactement ce que dit ce verset. On a tendance à se tourner vers les choses du monde. Pourtant, dans les trois sols, il y a des semences qui ont été posées. Dans chaque semence, il y a une capacité, il y a un potentiel pour faire grandir une plante. Et pourtant, dans la parabole du semeur, il n'y a qu'une seule terre dans laquelle elle porte du fruit. Dans le verset 4-19, il est écrit que les soucis du siècle, la séduction des richesses, les trois empêchent les personnes de sortir du lieu où ils sont, de quitter les limites d'où ils sont. La semence a du potentiel de pousser. Vous savez, on est dans un monde où on vit à 3000 km à l'heure. On est dans un monde où on est toujours occupé. On est dans un monde où on est... Moi, je le vois à la première. Ce qui est bien, c'est que ce matin, je vous parle à vous, mais je me parle à moi en premier. Parce que le Seigneur me l'a rappelé à moi aussi. On vit dans un monde où on est occupé, on va dire, 20 heures par jour, pratiquement. Peut-être pas 20 heures, mais 19 heures par jour. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a le mari, il y a le travail. Et on fait passer beaucoup de choses avant le Seigneur. Et quand finalement on a un petit temps de repos, eh bien on se la coule douce, on va à la plage, on va à la mer, on se met derrière la télé, et c'est bon, toutes ces choses, Dieu, je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas de toutes ces choses. Mais quelle est ta priorité ? Psaume 46, 10, si vous voulez le prendre, nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Arrête de courir dans tous les sens. Arrête de te perdre à droite et à gauche. Arrête de te livrer à des choses qui ne te portent rien. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu et sortir du bocal sans passer du temps avec lui, sans respect au repos devant lui et sans laisser Dieu parler. Si Dieu ne nous parle pas, nous n'irons jamais nulle part. On a besoin de se séparer, on a besoin d'aller dans un coin calme, on a besoin d'entendre de sa voix, on a besoin de prendre des temps de mise à part. On a besoin d'arrêter toutes les activités que le monde réclame. Et Dieu sait si le monde réclame des choses. Nous, en tant que chrétiens, la première des activités qu'on devrait voir dans notre vie, c'est chercher et vous trouverez. Cherchez Dieu. Cherchez de tout votre cœur. Si on cherche de Dieu de tout notre cœur, les sources de sa vie vont couler en nous. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Dieu essaie de nous étirer. Écoutez, combien de fois? Non, je le dis plus tard ça. On a besoin de passer du temps et d'arrêter pour que Dieu puisse nous parler. Aujourd'hui, le monde d'actuel nous demande d'être multitâche. On est multitâche. On fait de tout, à tout moment. On trouve toujours quelque chose à faire. On trouve toujours quelque chose à faire. Et Dieu est en train de dire, arrêtez. Arrêtez et maintenant, viens à mon écoute. Jérémie 10, 23. Nous dit, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Dieu nous a donné l'autorité pour conduire notre vie. Dieu nous a fait confiance sur le chemin de notre vie. Et pourtant, notre voix n'est pas en notre pouvoir. La voie que Dieu veut donner dans notre vie, il nous a donné l'autorité pour conduire la vie que nous voulons, mais c'est à nous d'utiliser le chemin sur lequel nous allons comme lui y veut. Et si nous ne le faisons pas, ce n'est pas lui qui nous y amènera de force. Dieu nous indique le choix, Dieu nous a donné le choix et il nous indique quel choix prendre. Dieu nous dit d'aller sur sa voie et c'est à nous de diriger nos pas sur le chemin que Dieu a pour nous. Et le chemin que Dieu a pour nous vient dans la présence de Dieu. Comme le disait, je crois que c'est Marc ou le pasteur Élisabeth tout à l'heure, il n'y a que dans la présence de Dieu que l'on peut trouver ses voies. Si vous voulez repousser les limites de ce monde, il va falloir remplacer les choses qui ne sont pas de Dieu mais du monde. Vous savez, tout le bazar de ce monde et nous étirer au calme avec passer du temps dans le Seigneur. Vous savez, je pensais l'autre fois, je me disais, Seigneur, alors, je vais donner une image qui n'est pas, c'est pas génial, mais je vais la donner quand même parce qu'elle parle. On a tous des chacals dans notre vie. C'est dur comme image. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des chacals. Ne répétez pas ça dehors, ce n'est pas du tout ça. Mais on a tous des chacals dans notre vie. On a tous, et un chacal, il se nourrit de charognes, de choses qui sont mortes. Et on a tous dans notre vie des coins qui sont morts. Ne me dites pas que tel qu'on est ici, autant de monde qu'on est à 100%, il y a toujours un petit coin dans notre vie qu'on n'a pas remis à Dieu. Il y a toujours un petit coin dans notre vie qui n'a pas été mis à la lumière de Dieu. Et Dieu veut ce matin que tu sortes de cet endroit, que tu ailles dans sa présence et que tu amènes la vie là où il y a la mort. Dieu dit qu'il nous a donné la vie en abondance. Mais pour avoir cette vie en abondance, il va falloir enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Ça prend du temps, mais Dieu peut le faire. Il va falloir enlever tous ces chacals qui sont en nous et leur mettre un grand coup de pied et dire « Sors de ma vie, tu n'as rien à y faire. Sors de ma vie. Ce qui n'est pas de Dieu, il faut le faire dégager dans la présence de Dieu. » Tant que vous ne laisserez pas Dieu vous parler, vous allez limiter Dieu et continuer à vous poser des questions. Tant que vous ne laissez pas Dieu agir à 100% dans votre vie, tant que vous n'allez pas dans la présence de Dieu, vous savez, quand on va dans la présence et qu'on lui dit « Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. » Je vous garantis, préparez un Kleenex, parce qu'inévitablement, il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Je ne parle pas des endroits où on s'est loupé, ça c'est pas grave. C'est pas grave, mais il y a des endroits dans notre caractère, il y a des endroits dans notre personnalité, il y a des endroits dans notre tempérament, il y a des endroits dans nos relations, il y a des endroits où Dieu veut que nous changions totalement. Est-ce que notre marche dans l'amour est à 100% comme elle devrait l'être? Est-ce que tu aimes ton voisin quand il est à côté et qu'il te fait du bruit jusqu'à 3 heures du matin sur la tête? Est-ce que tu aimes ton voisin de travail? Est-ce que tu aimes tes collègues de bureau? Est-ce que tu aimes ta famille? Est-ce que tu aimes ton père et ta mère? Est-ce que même s'ils te fatiguent, ils ne sont pas en accord avec toi? Est-ce que tu aimes toutes les personnes, les gens de l'église? Est-ce que tu marches dans l'amour au quotidien pour dire oui, j'ai la vie de Dieu en moi? Puisque vous savez, l'amour est un des fruits de l'esprit. L'amour est la première des choses que Dieu a donné. Dieu a donné son Fils pour que nous ayons la vie par amour pour nous. Et un des premiers endroits où nous devons nous remettre en question et dépasser les limites, c'est aimer ce que nous n'aimons pas. Tant que vous ne laisserez pas par Dieu vous parler, vous allez limiter et continuer à vous poser des tas de questions. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et je ne comprends pas ça. Et c'est « je ne comprends pas pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et on commence à se rebeller. On fait comme les Hébreux dans le désert. « Je me rebelle. » Au lieu de ça, c'est simple, c'est je me mets à genoux, je prie. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, parce qu'elles sont avec moi tous les jours de ma vie. Donne-moi des yeux pour voir comme toi tu vois. Tout simplement, des fois, donne-moi des yeux pour me voir comme je suis. Parce que des fois, vous savez, on voit les problèmes chez les autres, mais on oublie qu'on en a pas mal aussi. Hein, on oublie que beaucoup de problèmes dans notre vie ne viennent pas des autres, mais ils viennent de nous. Juste un petit rappel, je n'ai pas pensé à ça, mais je viens d'y penser maintenant. Donc, je pense qu'on a besoin de l'entendre. Beaucoup de problèmes qu'on a dans notre vie ne viennent pas des autres. Parce que si on marche dans l'amour, les autres ne sont pas un problème. Par contre, nous sommes le problème. Et je parle pour moi en premier. Attention, j'accuse personne. Tant que vous ne laisserez pas Dieu donc vous parler, je le répète une troisième fois, vous allez limiter Dieu et continuer à vous poser des tas de questions. Actes 9, 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et on voit ce qu'il a fait avec Ananias. Mais ce que je veux dire par là, c'est le Seigneur a appelé Ananias et il lui a dit « Ananias !» Et Ananias a répondu « Me voici, Seigneur. » Et moi, la question que je vous pose et que je me pose ce matin, c'est « Combien de fois le Seigneur t'a dit « Béatrice, Lydia, Jean-Marc, un tel et un tel, et on a fait semblant de ne pas entendre. Combien de fois Dieu nous appelle et nous ne répondons pas? Combien de fois Dieu a essayé de nous faire changer de route et nous sommes allés quand même dans la route sur laquelle nous voulions? Combien de fois Dieu a voulu nous empêcher de faire des bêtises et nous avons quand même fait des bêtises? Combien de fois Dieu voulait nous parler et nous ne l'avons pas écouté? Pourquoi? Parce que nous étions trop occupés à autre chose. Et le Seigneur ce matin te dit, coucou, je t'appelle dans ma présence. Je t'appelle à venir me voir. Je t'appelle à venir me parler. Je t'appelle. Je t'appelle parce que j'ai besoin de toi et je t'appelle parce que je t'aime. Je t'appelle parce que j'ai besoin des gens à l'extérieur, parce que je veux sauver les autres, mais j'ai besoin de toi. Mais si tu ne viens pas dans ma présence, tu ne sauras pas. Vous savez, j'ai vu un film dernièrement, et ceux qui font de l'évangélisation, je pense qu'on le verra ensemble. Et c'était des personnes qui vont évangéliser avec toute la hardiesse que Dieu leur donne. Mais pour pouvoir évangéliser, ils se sont réunis avant et ils ont été dans la présence de Dieu et dans la prière. Et dans la présence de Dieu, Dieu leur montrait dans la rue vers qui se diriger. Vous savez, dans la présence de Dieu, Dieu va faire sortir tes talents et tes dons. Tout le monde, et je me le dis à moi aussi, je suis la première. On peut tous avoir des paroles de connaissance. On peut tous avoir des paroles de sagesse. On peut tous parler aux gens à l'extérieur et avoir une parole qui les concerne. Et dans cette vidéo, je vous parle de la vidéo pour pas parler et citer des personnes précises. Dans cette vidéo, le Seigneur avait montré dans la prière qu'il y aurait un jeune ce jour-là à l'évangélisation avec un t-shirt rouge qui avait un méga problème de santé ou de je ne sais plus quoi. J'ai tellement oublié le problème parce que je suis restée focalisée sur ce que j'ai vu. Et Dieu, dans la prière, a parlé au groupe d'évangélisation pour lui dire vous rencontrerez un jeune homme avec un t-shirt rouge, allez vers lui. Et vous savez quoi? Ils sont allés vers lui, ils ont prié pour lui, il a été sauvé et je crois qu'il y avait un problème de guérison dans son corps. Et il est venu au Seigneur après. Vous savez quoi? C'est dans la présence de Dieu que Dieu peut faire des miracles avec vous. On le chante fréquemment, avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Mais pour écraser l'ennemi, il ne faut déjà pas qu'il nous écrase nous. Si on est dans un bocal, ça veut dire que l'ennemi il est en train quelque part de nous écraser. Et qu'il a trouvé le moyen, enfin après c'est nous qui y restons, hein, parce qu'il n'est pas sans arrêt en train de nous taper sur la tête. Il a trouvé un moyen pour nous y amener, et nous y restons. Donc là, Ananias nous appelle. Proverbe 4. Notre style de vie ne nous amène pas à passer du temps avec Dieu pour changer notre pensée. Peut-être avez-vous besoin de prendre un week-end au calme. Ok. Si nous le faisions, nous reviendrions totalement transformés. Qui ne l'a pas fait dans cette pièce d'être parti et d'être revenu un autre mois? MOI. Pas un mois après. Hein. Une journée, ça suffit des fois. Même quelques heures, même 2 heures, des fois, ça suffit. Parce que Dieu, quand on lui demande, il donne. Il y a un verset qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Proverbe 4, 26. Donc je reviens. Proverbe 4, 26, 27 nous dit « Considère le chemin par où tu passes et que toute voie soit bien réglée. » En gros, le Seigneur est en train de te dire « Regarde où tu vas. » Vérifie sur quel chemin tu es. Regarde la route sur laquelle tu es engagé. Est-ce que c'est la bonne route? Est-ce que c'est la route que Dieu a pour toi? Ou est-ce que tu as besoin de changer de croisement? Si tu vérifies, tes pas seront établis. Fais de ça un style de vie et les choses vont changer. Passer du temps avec Dieu va nous amener à un autre niveau. Quand vous allez passer du temps avec Dieu, Dieu va vous donner des instructions. Et ces instructions, il va falloir faire une chose, c'est passer par l'obéissance. Vous savez, dernièrement, le Seigneur m'a parlé clairement. Il m'a dit, là tu as désobéi, tu es passé à côté de la plaque. Je ne vous dirai pas quoi, ça ne vous regarde pas. Mais je ne suis pas exceptionnelle, je suis comme tout le monde. Et vous savez quoi? Je suis restée dans mon bocal. Je suis restée dans mon bocal. Parce que je n'ai pas obéi à ce que Dieu avait montré. Et je pense que tous autant qu'on est ici, on est passé par ce stade-là. 1 Roi 6, 12 nous dit, donc c'est toujours le roi Salomon à qui Dieu a demandé de bâtir un temple. Tu bâtis cette maison, si tu marches selon... Donc il lui dit, tu bâtis cette maison. Il est en train de bâtir cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël. Et Dieu aujourd'hui est en train de nous dire, si tu construis, si tu vas sur la route, si tu es en train de te construire, nous sommes le temple de Dieu. Et nous avons besoin de nous construire. Nous avons besoin de nous édifier selon la parole. Nous avons besoin de nous édifier selon lui pour pouvoir être l'édifice qu'il veut que nous soyons. Et à partir de ce moment-là, nous devenons la personne nous devenons, il va pouvoir nous amener là où il veut que nous allions. Alors quitte l'endroit où tu es, sors de l'endroit où tu es. Va, si tu y es, c'est bien, tant mieux. Si tu n'y es pas, réajuste le tir. Va dans les lieux que le Seigneur te montre. Va au pied de la croix, ne l'abandonne pas, reste avec lui, passe du temps avec lui, passe du temps avec lui. Hébreux 28 nous montre la liste des bénédictions et des malédictions pour ceux qui observent la loi. Et vous savez, une des premières choses pour observer la loi, c'est de passer du temps dans sa présence. Parce que si on n'est pas armé, si on n'a pas la présence de Dieu, si on n'a pas l'Esprit, l'Esprit Saint est un Dieu, l'Esprit, la Bible nous dit que l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est un, comment dire, l'Esprit bouge et l'Esprit veut bouger au travers de nous. L'Esprit ne veut pas nous laisser dans ce bocal. L'Esprit ne veut pas nous laisser à cet endroit. L'Esprit, le Seigneur veut qu'on quitte cet endroit. Et le seul moyen de quitter cet endroit, c'est d'aller dans la présence de Dieu, de laisser le Saint-Esprit nous travailler, de laisser le Saint-Esprit nous parler et d'agir en fonction de ce qu'il est en train de nous dire. L'Esprit bouge, Dieu bouge. Dieu est le Dieu du mouvement et le Dieu veut qu'on quitte les endroits où on est. Une des choses qu'il faut faire, c'est changer les pensées. Proverbe 23:7 nous dit que tel il est, tel il pense. Le problème de Dieu avec les chrétiens, c'est souvent rien d'autre chose que la façon de penser. Romains, j'accélère là parce que sinon j'en ai pour heure. Romains 12:2 nous dit de nous laisser, que nous soyons renouvelés, que nous renouvelions notre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable. Et besoin, nous avons besoin d'aller dans sa présence par la parole, la prière, peu importe, d'aller dans sa présence, de savoir qui nous sommes, de savoir ce que nous avons et de pouvoir être changés. Vous savez, transformer, ça veut dire rendre quelque chose ou quelqu'un de différent, le faire changer de forme, le modifier, changer le caractère général. Un synonyme de transformer, c'est d'être métamorphosé, qui vient du métamorphose, métamorphosos. C'est-à-dire changer de nature, changer l'individuel tel que nous sommes. Si tu n'es pas morphosé, si Dieu ne te change pas, tu ne pourras pas aller à l'endroit où tu dois aller. Et tu verras les autres qui y vont, et tu pleureras, et tu râleras, et tu diras « Pourquoi pas moi ?» Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin d'aller à la source. On a besoin d'arrêter de râler. On a besoin vraiment de continuer ce que Dieu a commencé à mettre dans nos cœurs. Vous allez me dire, oui, mais moi, à l'église, je suis à l'endroit où Dieu me l'a passé. Oui, gloire à Dieu. Et je crois que Dieu est bon. Dieu est bon de toute façon à l'endroit où nous sommes. Dieu est bon même si nous sommes bien placés à l'endroit où il veut que nous soyons. Dieu est bon, nous sommes aux bons endroits. Mais vous savez, il y a plus. Il y a plus. Dieu est bon. Donc il nous bénit. Il nous bénit d'une façon comme d'une autre. Si on prie, qu'on lui demande quelque chose, il nous le donne. Mais Dieu veut que vous dépassiez vos limites. Dieu, dans toute la bonté, dans tout ce qu'il a pour vous, il veut que vous dépassiez vos limites. Si tu dois déménager, déménage. Si tu dois changer de ville, change de ville. Si tu dois changer ton caractère, eh bien change-le, Dieu peut t'aider à le faire. Quitte le lieu dans lequel tu es. Entre dans la chambre avec ton Père, écoute ce qu'il a à te dire et agis en fonction de ce qu'il a à dire. Vous savez, ici dans le sud, il fait chaud. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Et c'est très facile de devenir un petit peu paresseux. Je ne me rappelle plus du verset qui parle sur la paresse. Mais paresseux, ce n'est pas forcément la personne qui est allongée dans un lit sans rien faire. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui est nonchalant. C'est quelqu'un qui est lent, c'est quelqu'un qui est gnangnan, c'est quelqu'un qui est en train de s'écouter, c'est quelqu'un qui est en train de se regarder, c'est quelqu'un qui est en train de voir sa petite vie et qui ne sort pas de cet endroit. Selon Dieu, la paresse, c'est le côté nonchalant. C'est pas grave, je le ferai demain. C'est pas grave. Et vous savez, je vous le prêche, mais je me le prêche à moi. Je suis en train d'accuser personne ce matin, mais le Seigneur me l'a montré clairement et nettement. Il est temps de sortir de notre façon de penser. Il est temps de sortir du bocal dans lequel nous sommes. Il est temps de sortir, de partir dans l'océan et d'aller chercher notre provision beaucoup plus loin. Dieu a une provision. On a vu plusieurs fois que Dieu avait une provision. Où est ta provision pour Dieu? Quelle est ta provision? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Pourquoi ça n'arrive pas? Quitte l'endroit où tu es. Va dans la présence de Dieu ce matin. Fais ce que tu as à faire avec ton Père et Dieu t'amènera dans d'autres niveaux. Dieu t'amènera dans des pays beaucoup plus lointains, au sens propre et au sens figuré peut-être. Quand on a vu Pierre, quand on a vu la semaine dernière que Pierre a marché sur les eaux par la foi, vous savez pourquoi il a marché sur la foi ? Parce qu'il a été capable de sortir de ses limites. Pierre a quitté ses limites. Les limites de son intelligence, c'est « je ne peux pas ». Dans la tête, c'était « il ne peut pas ». Dans le naturel, essayez de marcher sur l'eau cet après-midi, je vous garantis, il vous faut une bouée. Enfin bon, à moins que vous ayez la foi, hein, mais moi jusqu'à ce jour, j'ai besoin de remonter à la surface si je vais marcher sur l'eau. Ok ? Pierre est sorti parce qu'il est sorti de sa façon de penser. Pierre a vu ce que Jésus a vu. Pierre a vu Jésus faire et il a reproduit ce que Jésus a fait. Il est sorti des limites de son entendement et il a marché sur l'eau. Bon, après, il a bu la tasse parce qu'il a douté. Mais il a tenté de le faire. Vous savez, on peut prendre des tasses, c'est pas grave. Mais on peut quand même essayer de tenter de faire. Et on recommencera jusqu'à ce qu'on ne boive plus la tasse. Ce n'est pas un problème. Le Seigneur est là pour nous rattraper, même si on fait des erreurs. Le Seigneur est là pour nous ramener à la surface. Mais bouge, sors du bocal, quitte le lieu où tu es, quitte l'endroit où tu es. Dieu a beaucoup plus. Dieu a beaucoup plus pour toi, pour ta famille. Vous savez, on est toujours là en train de dire « Je veux ça pour ma famille, je veux ça pour ma famille, je veux que ma famille soit sauvée. » Dieu te le donnera. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Commence à t'occuper des gens qui sont à l'extérieur. Commence à t'occuper des gens qui sont dans l'église. Commence à t'occuper de ce que Dieu veut que tu t'occupes. Et lui, il s'occupera de ta famille. Sortez de votre façon de penser. Sortez de votre étroitesse. Sortez de l'endroit où vous êtes. Allez dans la présence de Dieu. Allez. Allez. Jésus a dit, allez. Amen. Vous savez, la bonté et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie. Alors ce matin, ce que je veux vous dire, c'est arrêtez de focaliser sur vos vies. Arrêtez de focaliser, il n'est pas bon de focaliser sur nos vies, sur les problèmes, mais gardez vos yeux sur la bonté et sur la grâce. Gardez vos yeux sur ce qu'il peut faire au travers de vous. Il n'y a pas besoin d'être dépressif. On est dans un monde où on n'a pas besoin de la dépression. Il y a assez de gens à l'extérieur qui sont dépressifs. Alors c'est ok si des gens à l'extérieur sont dépressifs. Ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous, mais je vous le dis parce que j'ai donné dans le passé, j'ai donné plusieurs fois, et je suis obligée de temps en temps, il faut lutter. Lutter contre ces esprits de découragement qui viennent. Tout ne va pas comme on veut dans notre famille. Tout ne va pas comme on veut dans notre vie. Mais vous savez quoi ? Je crois que Dieu a le meilleur. Je crois que Dieu a le meilleur. Je crois que le meilleur est devant. Je crois que cette église, elle a 3000 membres. Je crois que cette église, elle a ce bâtiment. Je crois que chacune des personnes va faire sa place qu'elle doit faire dans cette église. Je crois que chaque personne va prendre la place qu'elle doit prendre dans sa vie. Et je crois que chaque personne va prendre la place qu'elle doit prendre avec Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, je te loue et je te rends grâce, Seigneur. Et je te demande vraiment que ce qui a été donné, Seigneur, puisse porter du fruit. Donne-nous, Seigneur, de rentrer, Seigneur, avec toi dans des hauts lieux, Seigneur. Merci parce que nous t'invoquons, Seigneur. Nous voulons t'invoquer et te demander des grandes choses, Seigneur. Montre-nous les choses à venir, que chaque personne qui est ici, Seigneur, je te demande que chaque personne, tous les jours de la semaine, prenne ce temps à part pour être littéralement transformée en ta présence. Merci, mon Dieu, parce que tu es le Dieu des miracles, Seigneur, et tu fais des miracles chacun de nous, dans chacune des vies, Seigneur. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, Dieu veut impacter son monde. Dieu nous a mis une sphère d'influence autour de nous. Dieu a mis des gens autour de nous. Les personnes que vous croisez, moi, quelque chose que je trouve formidable dans Patrick, n'allez pas vous promener avec Patrick. Si vous avez rendez-vous, n'allez pas avec Patrick. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez arriver en retard ? Chaque fois qu'il y a une personne qui passe à côté, il parle du Seigneur. Et j'admire mon mari pour ça. Et le Seigneur lui amène de plus en plus de personnes à côté. Où il est dans son travail, il y a un jeune qui est rentré, travaille avec lui. En 3 jours, il a prié, il a accepté le Seigneur et il l'a invité à l'église. Et il a été guéri d'un problème. Vous savez, quand je vois mon mari faire à ce niveau-là, il a d'autres défauts, mais Dieu met des personnes d'influence. Sortez de vos limites. Sortez des limites pour le monde à l'extérieur et pour vous, pour ceux qui puissent agir et faire ce qu'il a à faire au travers de vous. Voilà, c'est ce que j'avais à vous porter ce matin.